Le Pit Stop avec Gravel et Marceau.
1, 2, 1. Denis Gravel qui est absent pour la semaine. Il va être de retour lundi. Denis qui a pris la semaine de relâche avec ses enfants. C'est pas un père indigne comme moi, lui.
Non. Quoi que travaille
les
miens, fort, lui.
Les miens sont sur un bateau de croisière. Dans le secteur des Bahamas, ouais. Présentement, avec leur mère.
C'est ça. C'est leur mère qui n'est pas indigne.
Leur mère m'a envoyé son compteur de pas.
OK.
Personnel à elle. Sur un bateau de croisière hier, à courir après mes deux gars, elle a gaspillé ou fait 13 600 pas.
Oh, hey, jamais j'aurais cru que tu peux faire ça sur un bateau de croisière.
Elle m'a envoyé ça, je braillais.
C'est un bateau avec des activités pour les enfants?
Oui, puis ça part de New York, donc c'est un bateau qui est fait aussi pour les températures un peu moins adéquates. Okay. Quand il va arriver au Bahamas, ça va bien aller. Là.
Wow.
Mais quand il part de New York, je pense que quand ils sont partis, c'était autour de 6 degrés. Là. Puis tout le monde voulait se baigner.
Arrête!
Donc ça prend des bateaux adaptés à ça avec des spas, là, avec de la chaleur. Mais bref, voilà. Donc Denis qui est absent, c'est Pascal CV qui remplace Denis et qui est à son poste aussi. Et comme invité spécial aujourd'hui, on a décidé d'inviter Éric Duhaime, le chef du Parti conservateur du Québec, qui est avec nous pour les prochaines minutes.
C'était pas Éric Kerr qu'on recevait?
Non, Éric Kerr, ça me prenait quelqu'un de pertinent aujourd'hui, fait que j'ai pris Éric Duhaime. Salut Éric!
Bonjour Yannick.
Très content de t'entendre aujourd'hui. Que penses-tu des tarifs que Donald Trump a mis en place? Que penses-tu de la contre-offensive qu'on fait du côté du Canada et du côté du Québec? Puis qu'est-ce que toi, tu aurais fait autrement que ce que François Legault fait présentement?
Bien, d'abord, moi, c'est un libre-échangiste. Là. Je crois au libre-échange. Les conservateurs, c'est un parti qui est libre-échangiste. On croit à des accords où, justement, on peut échanger plus facilement d'un pays à l'autre. Donc, on est contre autant les tarifs que les contre-tarifs. Et moi, je voyais ce matin là, Justin Trudeau là, qui parle de ses contre-tarifs puis qui a sorti des dates avec des produits. Mais ultimement, là, qui va payer ça? C'est nous autres. Comme
c'est le consommateur, oui.
On est en train de se tirer dans le pied bien comme faux. Là.
Mais ça part pas de nous, tu le sais, ça, Éric.
Non, je comprends, mais c'est que de répondre en étant tout aussi nono, je vois pas qu'est-ce que ça nous donne. Là. Tout ce que ça nous donne, c'est qu'on va tout payer plus cher là, parce que tout ce qu'on produit, qu'on consomme, qui vient des États-Unis, à partir de maintenant, va nous coûter de plus en plus cher.
Exact. Mais mettons qu'on part avec le gros orange de l'autre côté. Là, c'est-tu légitime pour les Américains que leur président impose des tarifs tant au Mexique qu'au Canada, malgré le fait qu'il y avait un accord de signé depuis des années et des années?
Bien, c'est sûr que ça va contre les accords, mais ça, ces accords-là, ça vaut jusqu'à temps qu'il y ait deux partenaires qui n'est pas d'accord avec sa signature,
ouais.
Ce qui est le cas présentement. Cela étant dit, les Américains, ils ont une balance commerciale négative, très négative avec le Canada.
Exact. C'est-à-dire
qu'on exporte beaucoup plus vers les États-Unis qu'on achète leurs produits. Donc, ils achètent plus de produits canadiens que nous autres, on achète de produits américains. Le président américain veut changer ça, il veut, parce qu'il trouve qu'il perd de l'argent là-dedans, donc il veut rééquilibrer ça. Il y a différentes façons de le faire. Celle des tarifs n'est pas la bonne parce que tout ce que ça va faire, c'est que autant au Québec, au Canada qu'aux États-Unis, on va créer artificiellement de l'inflation. C'est-à-dire que tout va se mettre à monter. Là. Et donc, on va pas s'enrichir, on va tout s'appauvrir des deux côtés de la frontière.
Mais restons aux États-Unis. Là. Advenant le cas où on fait venir, une entreprise américaine fait venir de l'acier ou de l'aluminium, là, rendu aux frontières, il y a une taxe de 25% qui est chargée à cette entreprise américaine-là. Cet argent-là s'en va directement dans les poches du gouvernement américain.
Oui, c'est une taxe.
Voilà. Donc,
c'est l'équivalent d'une taxe.
Donc, c'est les Américains qui bénéficient du 25% que Donald Trump impose pour faire affaire avec le Canada. C'est ça?
Attends une minute, ils en bénéficient, là. Parce que tout ce qu'ils achètent, là, va coûter 25% plus cher.
Non, ça, on s'entend, mais c'est juste pour décortiquer.
Ils font pas d'argent, là, les Américains, parce que tout le monde...
Mais le gouvernement s'en met plein les poches.
Ah, le gouvernement, pour les gouvernements, c'est sûr que c'est une vache à lait. C'est une taxe qu'ils sont en train de créer des deux côtés de la frontière. Autant le gouvernement canadien que le gouvernement américain, à partir d'aujourd'hui, va collecter encore plus d'argent dans ses coffres grâce aux tarifs. Ça, il faut que tout le monde comprenne ça. Là.
Exact.
C'est, à la base, c'est ça, un tarif. Là. Donc, c'est le gouvernement qui fait de l'argent. C'est les consommateurs qui sont plus pauvres.
Voilà. Ce qui fait en sorte qu'il y a des entreprises qui vont être moins portées à faire affaire avec le Canada ou ils vont diminuer leurs commandes parce que leurs clients vont peut-être être un peu moins enclins à acheter leurs produits parce que ça va coûter trop cher. Parce que l'entreprise américaine va redistribuer le montant supplémentaire qu'elle est chargée par le gouvernement des États-Unis. Elle va le redistribuer aux consommateurs. Pour ce qui est du Canada maintenant, pour la contre-offensive de Justin Trudeau, c'est une bonne façon d'agir?
Mais non. En mettant d'autres tarifs, tout ce que ça fait, c'est que ça va nous coûter encore plus cher. Il y a différentes choses qu'on peut faire sans être obligé de charger plus cher aux consommateurs. Puis là, j'écoutais même aussi François Legault hier, là, il a fait deux entrevues avec Patrice Roy et avec Paul Larocque. Il est dans le même état d'esprit que Justin Trudeau. Le Trudeau et Legault là-dessus sont identiques. Là. Et c'est pas la façon de faire. Si on veut vraiment que les consommateurs s'en sortent le mieux possible, bien, il y a différentes choses. D'abord, il faut commencer à éliminer les barrières interprovinciales. C'est-à-dire que ça, c'est une forme de tarif aussi entre les provinces canadiennes. Le Québec est le pire. Hein. On est l'endroit au Canada où il y a le plus de barrières pour les produits qui viennent des autres provinces canadiennes.
Parce qu'on se protège, oui.
On se protège, mais où les autres provinces font la même chose.
Exact.
Au total, les consommateurs canadiens sont perdants. Fait que si on veut pas, on a la chance d'avoir le marché canadien encore accessible, là, sans tarif. Mais il faudrait éliminer ceux qu'il y a déjà. Là. Puis ça se fait, ça se négocie. Puis il y en a question beaucoup. Il y a plusieurs politiciens dans le reste du Canada, puis même au Québec, là, qui commencent à dire que c'est une idée là, intéressante. Il va falloir l'exploiter. Mais le problème là-dedans, c'est que tu as toujours des petits lobbies qui ont des intérêts très particuliers qui vont se battre contre ça. Puis je vais te donner deux, trois exemples. Là. Mais tu sais, historiquement, au Québec, on emballait notre beurre dans du papier d'aluminium. Dans le reste du Canada, eux autres, ils emballent ça dans du papier comme ciré un peu, là. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a réglementé qu'au Québec, tu peux pas vendre du beurre qui est pas dans le papier d'aluminium. C'est qu'on élimine toute la concurrence du beurre qui vient des autres provinces. C'est niaiseux, là, mais c'est des affaires très, très concrètes. Un autre exemple, c'est la mousse qu'il y a dans vos sièges de voiture. Au Québec, on a interdit certains produits qui sont là-dedans. Ce qui fait qu'il y a juste une compagnie au Québec qui est capable de produire ces sièges-là. Fait qu'on n'achète pas les sièges qui viennent de l'Ontario, faut acheter les sièges qui viennent du Québec. Fait qu'on sauve 200-300 jobs au Québec, on paye nos sièges plus cher.
Est-ce qu'on peut faire un parallèle avec la loi du plus bas soumissionnaire en se disant, nous autres, on veut protéger les industries d'ici, mais on les pousse pas à être meilleures que celles qui sont d'ailleurs, soit au Canada, pour s'assurer qu'on se développe à notre plein potentiel puis qu'on devienne en fait une compétition assez aiguë, là?
C'est ça. Faut croire aux vertus du libre-échange. Faut comprendre que tu as intérêt à produire ce que tu es meilleur, à meilleur coût, puis de le vendre aux autres à meilleur prix, puis d'acheter à meilleur prix ce que tu produis plus cher chez vous. Si tu comprends pas ce principe-là, c'est la base là, du libre-échange puis de l'économie.
Mais c'est parce qu'on a peur, justement, d'avoir un creux qui durerait quelques années, le temps de s'ajuster, puis que ça ferait extrêmement mal?
C'est qu'il y a des petits lobbies qui, effectivement, eux autres, mais là, tu sais, présentement, il y a du monde qui va avoir mal, là. Regardez, là, tantôt, ils ont annoncé là, que dans le coin de Bécancour, il y a déjà une entreprise là, qui fait de la transformation d'aluminium qui vient de mettre fin à ses activités. Fait que les tarifs vont faire mal, bien plus mal que si on abolissait nos barrières. Là. Fait que je vais continuer la liste. Là. Ça, c'est une des affaires qu'on peut faire, c'est d'éliminer les barrières interprovinciales. La deuxième chose, c'est au niveau de l'énergie, faut être autonome. Présentement, là, 100% du gaz puis du pétrole qu'on consomme à Québec aujourd'hui, là, il vient des États-Unis. Il n'a pas tout été produit aux États-Unis. Il y en a qui viennent effectivement de l'Ouest canadien, de l'Alberta, entre autres. Là. Mais il est obligé de transiter par les États-Unis parce que nous autres, on n'a pas de léoduc, on n'a pas de gazoduc qui traverse le territoire canadien d'un bout à l'autre. Et ça, si on veut être la première autonomie, là, c'est en matière énergétique, c'est hyper important, c'est stratégique. Puis en même temps, ça va faire travailler du monde. Parce que là, il va y avoir des gens qui vont perdre leur emploi à cause des barrières. Là. Ça pourrait être une façon de réembaucher du monde pour se doter d'une infrastructure qui, à long terme, va nous donner une plus grande autonomie puis une plus grande richesse. La troisième chose qu'il faut faire, c'est commencer à creuser puis commencer à exploiter notre gaz naturel au Québec. On a la plus grosse réserve de gaz naturel non exploité au monde. On importe présentement 100% de notre gaz des États-Unis. Une partie vient de l'Ouest, mais une grande partie vient de plus en plus de la Pennsylvanie aux États-Unis. Quand tu vas faire ça, là, tu dis que les Américains vont trouver ça pas mal moins drôle que le fait que François Legault veut boycotter le jus d'orange. Là.
Ouais, puis il nous parlait tout le temps d'acceptabilité sociale, comme quoi les gens étaient rendus ailleurs et tout ça. Mais je pense que la fin maintenant justifie les moyens. Là. On va pouvoir y aller avec ce type de projet-là, alors que v'là 5 ans ou v'là 10 ans, c'était impensable. On préférait dire que les maudits Albertains, il y avait du pétrole sale et tout ça, mais en hypocrite, on l'importe chez nous. Tu sais, souviens-toi, il y a un sondage qui a été fait là, sur le fameux. C'était-tu l'oléoduc? Oui. C'était.
C'est les gazoducs, les oléoducs, puis c'est la presse qui a fait ça.
La presse. Puis là, finalement, tout le monde est ouvert à y aller avec ce projet-là. Parce qu'on est dans le trouble actuellement. On aurait dû s'en rendre compte, il y a 5 ans ou il y a 10 ans. Mais Éric, tu sais, le gros orange, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, il est en train de nous donner une leçon. C'est-à-dire, ben oui. Va falloir se diversifier pour ce qui est de nos exportations. Puis ne pas juste se fier au grand frère qui est l'autre bord. Puis aller voir ce qui se passe du côté de l'Europe. Puis, tu sais, la trail là, de Vancouver jusqu'en Chine, n'est pas si longue que ça. Il va falloir penser aussi à diversifier nos exportations.
Dans toute crise, il y a des opportunités. Ouais. Ça, c'en est une. Ça va nous réveiller. Puis effectivement, on était peut-être trop confortable à se dire, c'est pas grave, on a le plus gros marché du monde à côté de chez nous, puis on exporte à côté, puis on sans réaliser qu'on était faible puis qu'on n'était pas autonome. L'autre chose aussi que le Québec et le Canada doivent et peuvent faire, hier, je voyais François Legault là, qui dit qu'il veut commencer à distribuer des chèques comme un peu qu'il faisait pendant la COVID. Là. Ça, c'est une catastrophe parce que les chèques, ça va venir de votre portefeuille et on va endetter encore plus le Québec.
Ah non, mais c'est l'inflation qui va suivre de ça. Là. Ça, ouais. Ça peut pas.
Ça marche pas. Là.
Mais tu sais, Éric, les entreprises, là, tu nous parles d'entreprises déjà qui ont décidé de fermer les portes parce oui. que les temps vont être extrêmement difficiles. Ces entreprises-là vont être aidées par le gouvernement, si on en est certain. Mais les gens qui vont à boucher généreuse présentement, là, qui se disent, attends un peu, là, moi, il faut que je complète, il faut que j'aille à l'épicerie quand même. Eux autres, ils vont vraiment être hypothéqués. Le gouvernement va-tu mettre quelque chose en place pour ces gens-là?
Bien, c'est ça. Là. Le garde, là, tantôt, Justin Trudeau a annoncé là, que dans quelques jours, là, ça va être les fruits et légumes qui, des États-Unis qui vont être taxés.
Ouais.
Mais, je m'excuse, là, mais il y a des fruits là, qui ne poussent pas au Québec. Là. Fait que c'est pas, on ne fait pas ça venir ça des États-Unis pour le fun puis parce que ça nous tente. Là.
Oui, mais on n'est pas obligé de consommer ça. Pour la Suisse, je veux dire, il y a quand même quelque chose qu'on peut faire, nous, puis les industries alimentaires de chez nous peuvent le faire. Peut-être revoir le ratio de profit qu'ils vont faire. Non, c'est ça, gars. Ça se peut qu'on mange pas d'orange pendant un bout si c'est trop cher pour notre portefeuille.
Ça va prendre un temps pour se revirer de bord avec les fruits et les légumes.
Ça va être un petit peu plus difficile, là. Mais tu sais, ça serait intéressant de voir des
industries alimentaires.
Qu'on ne
sera pas capable de se revirer de bord. En attendant, on va être obligé de continuer à acheter des fruits et des légumes. Puis le panier d'épicerie des Québécois va continuer à augmenter encore plus vite, là. C'est ça qui est dangereux, là.
Parce que je sais que le gouvernement, il a toujours habitué ces grandes entreprises-là, qui sont des entreprises internationales, à coût de subventions et d'aides gouvernementaux. Mais nous autres, là, le citoyen, lui, qui va subir les contre-coups de ce que Trump veut faire versus ce que nos gouvernements veulent faire. T'sais, les gouvernements vont s'enrichir sur notre dos, puis nous autres, on va devoir payer 25% de plus notre épicerie. C'est une catastrophe qui est annoncée. Là.
La meilleure chose, ça serait de baisser les taxes et les impôts de tout le monde. Parce que c'est ça qui est le plus juste. Puis c'est pas, t'as pas d'arbitraire. C'est pas le gouvernement qui choisit une compagnie ou un type d'entreprise
J'aime
ou un type
ça.
De concitoyen pour donner des chèques. Parce que quand ils donnent des chèques, ils discriminent. Tandis que quand tu dis on charge moins cher pour les taxes et les impôts sur tout, ben là, t'aides tout le monde. Et fait que c'est une façon beaucoup plus neutre d'aider. Moi, je pense que c'est la meilleure. Il faut aussi au Québec, tantôt je te parlais d'opportunités, là, que si on produit tellement de paperasse, tellement de règlements au Québec, beaucoup plus qu'ailleurs sur le continent, c'est le temps de faire du ménage. C'est ouais. le temps de revisiter ça puis de dire on va essayer de soulager nos entreprises. Là, c'est toutes les folies vertes des dernières années pour bien paraître. Là. C'est le temps de scraper ça. Là.
Éric,
on a plus moyen, là.
Éric, maintenant tu fais de la politique, tu es chef du Parti conservateur du Québec, mais tu as été longtemps observateur de la politique, puis avant ça, tu étais en politique aussi. Qu'est-ce qui s'est passé dimanche soir pour que Geneviève Guilbeault écrive au bureau parlementaire de l'agence QMI, donc chez Québécois, en disant « Moi, quand j'ai eu l'information, je me suis assuré que ce soit Éric Kerr qui soit au courant de ça, et je me suis assuré que le conseil exécutif de François Legault soit au courant de ça aussi. » Dimanche soir, là, François Legault a dû capoter quand il a vu ça passer.
Ben écoute, moi, j'ai jamais vu ça.
Moi non plus.
Que ce matin, je rigolais, là, je l'appelle Geneviève Freeland Guilbeault. Je me demande si elle est en train d'essayer de prendre sa place. Ouais. Mais on rit, mais c'est pas impossible, hein? Écoute, elle a envoyé une... J'ai jamais vu ça. Elle a envoyé une lettre pour incriminer le premier ministre, pour essayer de dire qu'elle, elle n'a rien à se reprocher, puis qu'elle a informé le cabinet du premier ministre, le ministère du premier ministre. Et ça, je ne la comprends pas, puis je ne sais pas si c'est une erreur ou si vraiment il y a une stratégie politique derrière ça, Mais c'est très, très, très particulier. Là.
Parce que normalement, on fait tout pour protéger le premier ministre
en haut. Oui, c'est ça.
Pour que rien puisse l'atteindre. Puis là, ben, elle pitche le singe directement sur François Legault. Puis là, ben, il va avec une commission. Qu'est-ce que ça va donner, cette commission-là? Ça va-t-il être la même affaire que la commission Charbonneau? Là? On ne verra pas François Legault à la barre?
Ben, il va falloir qu'il aille témoigner. Là. Il n'y a pas le choix. Sa propre vice-première ministre dit qu'elle a informé le ministère du premier ministre.
Oui, mais on le pensait pour Jean Charest. C'est jamais pointé là, là?
François Legault a dit qu'il était au courant de rien. Il a continué à maintenir la ligne de l'ignorance. Personne ne savait rien. Il a continué à répéter ce qu'il a dit depuis le dépôt du rapport de la vérificatrice générale. Sauf que là, si personne ne savait rien, si personne n'a rien à se reprocher, pourquoi ils ont fait démissionner Éric Kerr vendredi?
Ben, parce qu'on voulait y faire porter tout l'odieux de cette tragédie-là. Là.
Fait que c'est ça qui est bizarre. Là. Pourquoi c'est juste Éric Kerr qui paye alors qu'il était tout au courant? Oui, il était tout pas au courant, dépendamment de comme à qui vous croyez, là. Mais il y a quelque chose qui est complètement bizarre. Cette commission-là était nécessaire en passant. Là, je veux pas avoir l'air du gars qui est contre la commission d'enquête. Là, au contraire, je pense que François Legault, dimanche soir, il a fait ce qui était qui s'imposait dans les circonstances actuelles. Cela étant, il faut pas que ça arrête non plus les autres types d'enquêtes, parce que même l'UPAC doit se mêler de ça. Il y a potentiellement eu des choses criminelles qui ont été faites. Moi, quand j'ai lu le rapport de la VG puis que j'ai vu qu'il y avait une firme qui avait été embauchée pour aider pour les appels d'offres,
ouais,
pour aider le gouvernement à préparer les appels d'offres, et que cette même firme-là s'est ramassée avec le contrat, c'est fou, là. C'est comme si le président de l'Auto-Québec, il participait au tirage de la 649, puis c'est lui qui gagnait le gros lot.
Ouais, je me souviens encore du bonhomme carnaval, là, sur le magazine McLean's, là.
Mais écoute, c'est fou, là, cette affaire-là.
La province la plus corrompue. Ça se dit ailleurs, j'imagine que ça doit se faire ici. Là. Si les autres disent ça de nous, j'imagine qu'il y a peut-être une partie de vrai. Là.
Mais il y a quelque chose qui ne marche pas. Fait que là, il faut que ça soit qu'il enquête ça. Comment ça se fait? Puis est-ce qu'il y a eu des heures surfacturées? Parce que là, le dépassement de 500 millions, là, il est parti de quelque part. Là. Puis cet argent-là, il va falloir qu'on se fasse rembourser. Là. S'il y a des gens qui ont détourné des fonds publics, il faut que ça revienne dans les coffres de l'État. Il faut qu'il y ait des enquêtes criminelles. Si effectivement ils sont capables d'avoir de la preuve et de porter des accusations, mais il va falloir que ces gens-là se ramassent derrière les barreaux. Il va falloir qu'aussi on tente de retrouver la trace de l'argent puis que cet argent-là revienne dans les coffres de l'État. Parce que, en plus, on est dans une période qui est économiquement très difficile, puis avec les tarifs, ça va être encore pire dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Les gens ont de la misère à payer l'épicerie, les gens ont de la misère à renouveler leur hypothèque, les gens ont de la misère à vivre, et leur niveau de vie diminue. Puis pendant ce temps-là, eux autres, ils ont dilapidé 1,1 milliard pour un site web de la SAC. Écoute, à un moment donné, il y a des limites à rire du monde.
Ouais.
Je vois rire du monde ou pas connaître son manque de compétences, là? Ça, les deux sont problématiques.
Je veux dire, puis François Legault nous a appris avec le temps que des ministres qui ont atteint le principe de Peters, là, il y en a pas mal autour de lui. T'sais, on se souvient d'Éric Kerr qui était pour l'ADQ, c'était le shérif, il était connaisseur de ses dossiers, ça n'avait pas de maudit bon sens. Tout d'un coup, les journalistes ont commencé à s'intéresser à cet individu-là. Hein, on regarde son CV, c'est pas tout à fait la vérité qui est écrite sur son CV. Il n'y a pas de diplôme d'études collégiales en tant que tel, pas de diplôme d'études universitaires, donc il a menti. Finalement, il y avait une attestation d'études collégiales au Collège Multi-Exa à Québec, et ce gars-là est rendu ministre de la transformation numérique. Je veux dire, t'es peu, là, c'est beau monter les échelons, là, mais t'as peut-être pas les compétences pour diriger les gens qui sont pas mal plus compétents que toi, là.
Non, puis tu sais, il n'y a pas le jugement non plus, là. Accepter un prêt du maire de l'ancienne Lorette,
50 000, 55 000.
Puis tu sais, d'ailleurs, moi, je pensais à cette époque-là, avant même qu'il soit élu en 2018, puis que la CAQ forme le gouvernement, j'étais convaincu qu'il serait pas ministre à cause du prêt qu'il avait eu du maire. Parce que c'était un grave manque de jugement, un conflit d'intérêts avec quelqu'un avec qui il devait dealer comme élu dans cette circonscription-là. Mais François Legault l'avait quand même nommé ministre. Après ça, rappelle-toi sa promesse de démissionner. Il mettait son siège en jeu, le troisième lien. C'est dans le premier mandat, les travaux n'étaient pas commencés.
Mais tous les voyants rouges étaient là. Puis je salue les gens de sa circonscription qui y ont plusieurs fois pardonné. Là, j'espère que la prochaine fois, vous allez penser peut-être à un autre candidat. Là.
Ce qui ferait la différence entre un ministre un petit peu plus impliqué puis un autre un peu plus évasif, si on veut, ce serait le fait de vouloir gratter les dossiers. Parce qu'il paraît qu'effectivement, il y a de l'information qui ne se rend pas au ministre puis qu'on en cache au niveau gestionnaire, au niveau syndicat, au niveau X, Y, Z. Mais un ministre qui se bat un petit peu, là, qui dérange un peu puis qui va peut-être probablement faire l'actualité parce que il y a des gestionnaires qui sont troublés, qui sont fâchés là, qu'on aille jouer dans leurs petites pacotilles, leurs petites affaires du quotidien. Ben, c'est un ministre qu'on pourrait apprécier, mais qui se bute à des murs. Mais est-ce que c'est ce que tu analyses de ton côté aussi, qu'il faut gratter si on souhaite être un bon ministre?
Ben, c'est sûr qu'il faut que tu fasses ton job, il faut que tu lises tes trucs, puis il faut que tu te poses des questions, puis que tu challenges tes fonctionnaires, puis tu gobes pas tout ce qu'ils te donnent. Là. Et c'est peut-être ça qui est arrivé aussi, là. Mais peut-être pas. Le problème qu'on a, là, c'est que présentement, on parle, mais on sait pas exactement. C'est pour ça que ça prend une commission d'enquête, pour qu'on sache exactement c'est tout ça qui a été le problème. Puis là, pour finir avec Éric Kerr, là, au moment où on se parle, là, il n'y a plus de fonction de ministre, mais il reste député. Il est payé par l'Assemblée nationale à au-dessus de 130 000 $ par année, puis il n'est plus montrable dans son comté, ça fait 2 ans. La dernière fois qu'il était dans une activité, il s'est fait tuer par tout le monde. T'sais, il appelle ça le walk of shame. Là. On va continuer à payer pendant 2 ans un gars pour pas qu'il parle, puis qu'il va être complètement en arrière des rideaux, et qu'il fera plus rien, là, je veux dire. Il est calciné politiquement parlant en bon québécois.
Oui, mais tu sais pourquoi qu'on va pas en partiel? On va dire parce que ça coûte trop cher, mais
qu'on serait élu, ça serait conservateur, exact. Qui prendrait le comté, c'est pour ça.
On regarde. Pas question, t'as 98% des chances de passer dans son comté actuellement. Si je regarde sur Québec 125, oui. Là, c'est Parti conservateur du Québec. François Legault veut pas te voir là.
Mais non, puis c'est ça. Puis si c'est le chef, c'est 4% de plus. Fait que, mais prends l'écart qu'il nous donne à notre avantage, puis ajoute 4 points. C'est à peu près ça que à quoi ça ressemblerait s'il y avait une élection dans la pelleterie aujourd'hui. Mais ils veulent pas. C'est sûr qu'ils veulent pas nous avoir là. Puis ils veulent pas pourquoi. Parce qu'on serait les seuls sur bien des dossiers. On vient de parler des tarifs, là. On est les seuls qui, aujourd'hui, se lèveraient pour dire que ça n'a pas de sens, ces tarifs, là. Que c'est pas une façon de. C'est une façon de taxer encore le plus le monde. Puis c'est une histoire de donner des chèques à tout le monde puis de nous endetter. Là. Il y a déjà empilé le pire déficit de l'histoire du Québec, c'est assez. On recommencera pas à vivre ce qu'on a vécu pendant la crise sanitaire. On serait le seul parti à dire ça. Là. Fait que c'est sûr qu'ils veulent continuer à avoir une unanimité sur les visions économiques de ces quatre partis-là. Ils veulent pas nous avoir là. Mais à un moment donné, il va falloir que la population fasse de quoi. Et moi, dans la pelleterie, c'est bien de valeur, mais je peux pas croire qu'Éric Kerr va encore rester là 2 ans à rien foutre. Parce que là, on lui a enlevé ses fonctions. Fait qu'il est trop incompétent, il est pas assez honnête pour être ministre, mais il est assez incompétent pas assez malhonnête pour rester un bon député de la CAQ. C'est ça le message qu'on est en train de nous envoyer. Un peu comme le message avec le comté juste d'à côté dans Chauveau, Sylvain Lévesque, qui était pas assez
même
honnête.
Affaire. Même affaire.
Ben, au niveau du, avec, parce que rappelez-vous, hein, il avait menti à la commissaire à l'éthique.
Exact.
Il a détruit de la preuve dans une enquête qui le concernait. Il a été obligé de démissionner comme vice-président de l'Assemblée nationale. Fait qu'il était pas assez honnête pour être VP de l'Assemblée nationale, mais il est assez malhonnête pour rester un bon député dans le caucus de la CAQ. C'est quand même spécial, là. Ces deux députés de la région de Québec qui sont rendus calcinés politiquement, puis qu'on va continuer à payer encore pendant 2 ans. Puis pendant ce temps-là, le poids politique de la région de Québec diminue au gouvernement. Parce que là, depuis la semaine passée, là, on a un ministre de moins. Parce que le nouveau ministre qu'ils ont nommé, là, il vient pas de la région de Québec. Fait qu'ils sont en train de diminuer le poids puis l'impact politique de la capitale nationale dans l'ensemble du Québec. Ça aussi, c'est une autre réalisation de la CAQ. Alors que c'est la région de Québec qui a été celle qui a le plus voté pour la CAQ puis qui les a mis au monde.
Ouais.
C'est clair, hein?
Et s'il y avait des élections demain matin, là, il y a plus de ministre. Là. Actuellement, Jonathan Julien n'aurait plus son comté. Geneviève Guilbeault n'aurait plus son comté non plus. Ce serait une catastrophe pour ce qui est de la coalition à venir Québec. Ouais. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire pour se racheter les gens de Québec, mais j'imagine qu'il va y avoir des promesses comme pas possible aux prochaines élections. Je regardais un sondage, Éric Duhaime, région métropolitaine de Québec, 36% le Parti conservateur. T'es né à nez avec le Parti québécois?
Oui, on est égal au Parti québécois, puis la CAQ est à 15%.
Ouais.
La CAQ qui a dominé la région de Québec pendant une décennie est rendue à 15%. C'est mérité, leur marque, à cause de ce qu'ils font dans le dossier du tramway puis du troisième lien. Puis je pense que je suis très heureux de voir qu'on est à 36% de mémoire. Là. Le Parti conservateur du Québec n'a jamais été aussi haut dans la région de Québec. Je pense pas qu'il y a eu un seul sondage qui nous a jamais mis aussi élevé. Et je pense que ça témoigne de ce qui est en train de se passer. Il y a un réalignement politique qui est en train de se faire au Québec. Puis c'est pas la commission d'enquête qui va nous en apprendre de plus en plus sur les mensonges de la CAQ qui va faire que la CAQ va remonter. Puis les positions du Parti québécois, autant sur sa position en faveur du tramway que contre un troisième lien autoroutier, va à l'encontre de ce que souhaite l'écrasante majorité des gens de la région de Québec. Je pense que c'est pour ça que le Parti québécois descend puis que les partis conservateurs montent. C'est parce que on est au diapason, on a les mêmes idées, puis on propose la même chose que ce que les gens de Québec veulent, alors que le PQ propose exactement le contraire.
Puis, y a-tu un lien entre le fait que si on habite à Québec, on est les citoyens les plus imposants en Amérique du Nord, puis les résultats de ce sondage-là? Parce que je regarde, bon, le Parti conservateur, c'est un parti qui est plus à droite économiquement, oui. Mais le parti québécois, c'est pas un parti qui a toujours été très fort sur l'économie.
Non.
Je trouve ça particulier, le 36-36.
Ben écoute, c'était plus haut que ça il y a quelques mois, là. C'est le Parti québécois est en train de descendre, puis nous, on est en train de monter. Là. Il y a eu une désaffection. En fait, la vraie histoire politique des deux dernières années au Québec, c'est que la CAQ n'a pas arrêté de descendre. Puis ça a commencé à Québec. Hein. C'est Québec, quand ils ont annoncé que le troisième lien faisait un virage à 180, c'est là que la région de Québec a tourné le dos complètement à la CAQ, puis la dégringolade a commencé. Puis vous le savez, là, il y a beaucoup de gens qui votent pour la CAQ. C'est une clientèle qui est plus âgée, traditionnellement était au Parti québécois, un peu comme François Legault lui-même, puis les vieux péquistes, ben, sont retournés au Parti québécois. Et c'est ça. À court terme, c'est toujours ça, mais pas toujours, mais souvent ça qu'on fait, tu sais. Quand ça va mal dans ton couple, puis tu te mets dehors, ben, tu te remontes chez ton ex des fois dans
le super toxique.
Mais ça marche jamais très longtemps,
non,
cette affaire-là.
C'est ça, c'est ça.
Puis là, c'est ce qui est en train de réaliser, là. Je pense que les anciens péquistes qui étaient à CAQ, puis sont retournés au PQ à court terme, réalisent que on sait maintenant pourquoi ils avaient quitté le PQ en première place, puis ça leur rappelle des mauvais souvenirs, puis sont en train de déserter au moment où on se parle.
Éric Duhaime, ça a été un plaisir.
Toujours un plaisir à vous. Au revoir.
Bye bye. Éric Duhaime, qui est chef du Parti conservateur du Québec. Après la pause, on jase avec Vincent Gélézeau, qui est docteur en économie. C'est aussi un historien de l'économie. Là. Fait qu'on va jaser, bien entendu, de ce que Donald Trump met en place. Est-ce que c'est déjà arrivé dans l'histoire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter tout ça, que les gens souffrent comme ça? T'sais, moi, ce matin, je me suis réveillé en regardant tout ce qui se passe dans l'actualité. Je me suis dit, la petite famille qui a de la misère à joindre les deux bouts à l'épicerie, va falloir avoir une pensée pour eux autres.
Tout le monde est un peu sur le qui-vive. Yannick, je te dirais, là, Justin Trudeau s'est prononcé ce matin en disant qu'il va falloir se tenir là-dedans, que ça va être difficile. Il dit, je vous le cacherai pas, que ça va l'être. Il y a Poilievre qui est en point de presse en ce moment du côté d'Ottawa et qui dit que, bon, il va être présent et on va essayer de travailler sur nos partenariats d'affaires aussi pour le pays en entier. Mais tu sais, à quel point il y aura pour l'instant la facilité de le faire. Ça va être plutôt dans les courants de pensée puis dans les prises de parole.
Je sais pas si tu as le même réflexe que moi, là, mais quand j'entends n'importe quel chef de parti, là. Écoutez, ça va être difficile, mais on va passer au travers. Ces gens-là sont jamais impactés. Tu sais, Justin Trudeau, des problèmes avec son épicerie, il n'y en a pas, là.
Un petit peu.
D'ailleurs,
moins qu'on pense.
Ben, c'est ça.
Nicolas Gagnon nous a parlé de ses factures d'épicerie hebdomadaires, là, hier. Là,
exact. Prendre
la chronique au
mais ces gens-là disent, lâchez pas, mais tu sais, on va passer à travers des moments difficiles.
Mais en même temps, ils vont pas dire, nous autres, on va s'en mettre plein les pattes, puis tu sais, c'est sûr, Yannick, ils n'ont pas le choix de dire ça.
Mais ça doit être difficile d'être groundé comme ça quand tu es obligé de dire quelque chose que toi, tu ne ressentiras pas.
Qu'est-ce que tu veux
faire? C'est-à-dire la misère humaine, pas trop savoir comment tu vas faire pour joindre les deux bouts. Ton gars ou ta fille qui te demande de faire une activité sportive avec l'école, ça coûte 50$, tu ne l'as pas.
Il faut que tu vraiment que tu continues à avoir dans ton entourage
des gens de même.
Des gens comme ça.
Ouais.
Des gens normaux. Il faut que tu continues de t'entourer de gens qui vivent des réalités, qui t'en parlent. Faut que t'ailles sur le terrain. C'est indéniable
pour
à ton travail.
Grounded. Ouais. Effectivement. OK, après la pause, Vincent Gélézeau est là. Rage against